Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Demain, c'est le jour de l'Annonciation et pour célébrer la Vierge Marie, la paroisse maronite de Toulouse et d'autres communautés se réunissent pour une marche et un concert. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père, qu'on dit aussi Abouna, Tanios Pteich, curé de la paroisse maronite de Toulouse. Bonjour à vous.
Bonjour Timothée et bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors déjà, pour débuter cette émission, j'aimerais qu'on puisse parler de cette date importante du 25 mars, le jour de l'Annonciation. Qu'est-ce que c'est, le jour de l'Annonciation?
Donc au Liban, c'est la fête de l'Annonciation qui est une fête nationale. C'est un jour férié. Donc c'est un jour qui est offert à tous. Depuis quelques années, donc l'esprit de cette journée elle est partagé entre plusieurs endroits du monde et surtout ici en France. Donc c'était à l'origine au cœur des citoyens du pays du Cèdre la figure de la Vierge Marie. Elle a pu concentrer un grand espoir, un désir de paix, de concorde entre toutes les confessions religieuses et toutes les convictions. Et c'est dans cet esprit que le Liban a fait le jour de l'Annonciation une fête nationale chômée. Donc ce rassemblement qui est intitulé « Marcher avec Marie pour la paix » qui va réunir plusieurs personnes, des communautés et des confessions de tous les horizons. Donc nous sommes nombreux à vouloir partager cette convivialité qui dépasse tout clivage. Ce jour-là, donc cette fête, elle a commencé. La fête de l'Annonciation, c'est universel, mais la fête de célébrer Marie par toutes les confessions, c'était les premiers, c'était les Libanais. C'était en 2010. Et c'est une tradition qui est vécue, c'est sûr, au Liban, en Syrie, en d'autres pays du Moyen-Orient. Et maintenant, on le voit dans tout le monde entier, même ici en France, que toutes les personnes de différentes confessions célèbrent Marie.
Vous disiez, cette fête de l'Annonciation, elle est, c'est même un jour chômé au Liban. Pourquoi c'est aussi important pour les Libanais?
Car, comme vous le savez, donc, dans le Liban, il y a différentes confessions. Mmh. Il y a donc les chrétiens qui sont de plusieurs rites. Moi, je suis de rite maronite, catholique. Il y a les orthodoxes. Il y a d'autres confessions, les musulmans, les druzes, et dans les musulmans, les chiites, les sunnites. Donc, il y a plusieurs... c'est un pays multiconfessionnel. Mmh. Et nous voyons que dans ce jour-là, donc Marie, elle peut rassembler tous ces gens-là. Et nous voulons que ici à Toulouse, de vivre cette fête un peu à la libanaise, de cette même manière. Et je crois que nous, comme nous les Orientaux, Marie, on est très marial en Orient. Et nous aimons aussi de partager cette expérience ici sur Toulouse et de ramener de chez nous ce qui contribue ici à l'espoir, à l'esprit de concorde et de paix.
Vous disiez, c'est un jour chômé au Liban, ce jour du 25 mars de l'Annonciation. Comment cette fête est célébrée au Liban?
Donc généralement, il y a des rassemblements entre différents chrétiens, musulmans et d'autres confessions. Donc il y a des marches de paix, il y a aussi des concerts, il y a aussi un dialogue interreligieux entre les différents confessions. Donc il y a plusieurs manifestations qui rassemble toutes ces confessions. Et on a trouvé que Marie elle peut rassembler tout le monde, elle peut parler à tout le monde, Marie c'est la mère, donc et la mère elle sait nous parler, une épouse elle sait nous parler de la paix. Donc c'est cette manière féminine d'abord l'existence de dépasser tous les drames humains qui sont sensibles et de donner donc un signe un peu universel à cette fête.
L'événement que vous organisez s'appelle Marcher avec Marie pour la paix. Vous pensez que se réunir autour de la figure de la Vierge Marie peut nous aider à être en paix avec d'autres communautés ? Avec notre voisin, par exemple.
Tout à fait. Aussi que donc cette journée de concorde pour la paix, où la réponse de Marie à l'ange à recevoir le prince de la paix dans son cœur, donc je crois qu'elle va, elle stimule chacun à recevoir la paix comme un don, et puis à le transmettre. Et quand il y a donc de différences, donc on a besoin d'une paix, sans dire de se rassembler. Je veux pas donc on est différent de l'autre, mais il y a des choses de concorde et il y a quelque chose qui peut être en commun entre moi et l'autre. Et avec le pape François, toujours il dit aller donc vers la périphérie, aller vers l'autre. Et je crois que c'est une manière d'aller vers l'autre.
Ce qui se passe au Liban, vous avez voulu le reproduire à Toulouse avec une marche pèlerinage et un concert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le programme, qu'est-ce qui est prévu ?
Donc c'est le samedi 25 mars 2023, donc c'est la communauté maronite avec différents groupes, la communauté malgache, la communauté Océanie, donc plusieurs groupes d'Afrique, avec surtout la paroisse étudiante et le diocèse de Toulouse. Donc on va marcher pour la paix. Donc la marche, elle débute à 18h, donc au rythme de méditation interconfessionnelle d'un chapelet vivant. Donc les grains du chapelet vont être des personnes, et on va marcher en se tenant comme une chaîne. Et donc le départ, c'est la cathédrale Saint-Étienne à 18h pour arriver à 20h à la Dorade. Et on va réciter le chapelet durant toute la marche. Et puis il y a des méditations qui sont interconfessionnelles, qui parlent de paix, de concorde et d'aller vers l'autre. Donc c'est ça cette marche pèlerinage. C'est beau de voir comme ça les différents groupes, différentes communautés s'unissent comme une chaîne. Donc et en marchant dans les rues de Toulouse, ça va être vraiment un signe et un vrai témoignage de paix et de concorde pour les gens. Donc c'est beau, donc qu'on sera, donc on va marcher, on va passer le Capitole et toutes les rues de Toulouse, et de nous voir comme ça, on est différentes communautés qui se rassemblent autour de Marie. Et puis à 20h, il y a un concert à la basilique de Notre-Dame de la Dorade qui est intitulé Ensemble avec Marie pour la paix. Et ce concert, il réunit des chants et des instrumentaux interconfessionnels d'Orient et d'Occident, avec d'entre autres la chorale maronite de Toulouse, l'ensemble vocal Tempus 21, la chorale de l'église éthiopienne orthodoxe Tewahidou, et aussi donc on va avoir nos confrères protestants, les voix de l'ERS et leurs amis, donc ils vont chanter pour la paix. Donc vraiment c'est un jour qui a pu rassembler même aussi les protestants. Pour eux, Marie n'a pas le même symbolique que nous les catholiques. Donc et c'était pour moi donc vraiment une occasion et une joie, et qu'ils ont accepté de participer à ce concert. Donc c'est bien que tous se rassemblent autour de Marie pour vraiment chanter la paix, et que Marie elle va vraiment nous rassembler dans ce jour-ci.
Et chacun va chanter des chants qui lui sont propres ou pas?
Tout à fait, tout à fait. Je parle de notre part, les maronites, on va chanter en arabe et on va chanter en araméen, syro-araméen, qui est la langue de Jésus-Christ, car les maronites, leur langue liturgique, c'est le syriaque. La langue syriaque, c'est la langue fille de l'araméen, qui est la langue de Jésus-Christ. Donc, on va chanter pour Marie des chants mariales, syriaque et arabe. Les orthodoxes, ils vont chanter dans leur langue, des chants orthodoxes. L'ensemble vocal Tempus 21, c'est un ensemble vocal français, donc ils vont chanter en français. Et les amis de l'ERS, ils vont chanter en français, mais pour la paix. Donc, différentes langues et différents sujets, mais tous se rassemblent dans le même sujet.
Pourquoi c'est important que toutes les communautés échangent et se réunissent? Selon vous,
En fait, tous on est là. Tous on vit dans un même territoire, dans une même région géographique. Donc, et si vraiment on veut la paix, et si vraiment, donc, toujours, je parle de ma part comme un prêtre, toujours on évangélise les gens et on fait des homélies pour les inviter à faire la paix. Donc, je sais qu'il y a des différences. Et moi, je viens d'un pays du Liban, d'un pays oriental, qu'il y a une grande cohabitation entre les musulmans et les chrétiens. Mais ce pays, il a passé par beaucoup de difficultés pour arriver à cette cohabitation. Et moi, donc, j'accepte la différence de l'autre sans faire de concession. Moi, je ne fais pas de concession sur ma foi catholique. Personne, donc, je ne veux pas que personne ne me fait comprendre que non. Donc, Jésus, il a... Il a donné à boire à la Samaritaine. Il a été avec l'autre, avec l'étranger. Et moi, en tant que chrétien, catholique, et je suis fier de l'être, donc je ne peux pas ne pas aller vers l'autre. Je ne peux pas ne pas dialoguer avec l'autre. Je ne peux pas ne pas accepter l'autre dans sa différence. Et comme je dis, ce n'est pas faire de concessions. Mais c'est une invitation vraiment à avoir des points communs, des points que toutes les confessions ou tous les différents groupes peuvent se retrouver dans une place et de vivre ensemble.
Au Liban, vous le disiez, la cohabitation entre les catholiques et les musulmans se passe bien. Pourquoi en France, c'est pas pareil ?
Je crois, donc avec toute humilité, donc je crois que ici, donc il y a une grande méconnaissance du peuple des Français de la religion musulmane. Et si on veut communiquer avec l'autre, donc il faut connaître un peu sur la religion de l'autre. Surtout qu'il faut très bien comprendre que la religion musulmane, elle fait partie de toute la vie du peuple musulman. De ces personnes-là. Donc, vous savez, ici en France, il y a séparation entre l'État et la religion. Mais chez un musulman, ce n'est pas le cas. Donc, tout est dans la même vie de la personne. Donc, en ce qui concerne sa vie quotidienne et sa vie de religion. Donc, et je crois qu'il y a vraiment une grande méconnaissance de la religion, une grande méconnaissance de la tradition, surtout que entre les Français et les musulmans, donc il y a aussi différentes, pas seulement de tradition, aussi il y a différence de langue. Donc il y a aussi la barrière de la langue. Donc c'est pour cela qu'on dit que nous, les chrétiens d'Orient, et surtout nous, les Libanais, donc on peut jouer vraiment un rôle, un pont entre ces différentes communautés. Donc, vous savez, car au Liban, donc, on parle l'arabe comme eux et on a les mêmes traditions. Il y a aussi des mariages mixtes entre chrétiens et musulmans. Donc, toujours on dit ça. Donc, utilisez-nous, les chrétiens d'Orient, et pour avoir vraiment ce dialogue entre les différentes confessions.
Dans cette deuxième partie, je voulais qu'on aborde, donc là on a parlé du jour de l'Annonciation, donc le jour où l'ange Gabriel, messager de Dieu, se présente à Marie pour lui annoncer qu'elle donnera naissance à un fils nommé Jésus qui sera un enfant divin. Parler de la figure de la Vierge Marie, nous entretenons tous une relation particulière avec elle. La Vierge Marie, c'est la mère de Jésus, mais encore, qui est-elle ? Qu'est-ce qu'elle représente réellement au-delà de la mère de Jésus ?
Une mère, elle est toujours reçue comme le don le plus précieux d'une personne. Et lorsque sur la croix, Jésus nous donne Marie pour mère, ce don, vraiment, il touche profondément tous les cœurs, bien au-delà des limites et de la communauté chrétienne. Donc, en France, ici, donc, comme dans mon pays, le Liban, c'est vrai partout. Donc, les lieux de pèlerinage marial, vraiment, elle rassemble toujours largement, même lorsque la foi, elle semble affaiblie. Donc, à Notre-Dame du Liban, à Rissa, on voit vraiment, donc, il y a des communautés qui ne sont pas chrétiens, qui viennent pour vénérer Marie, pour prier et tout ça. Donc, et on voit ça de plus en plus. Car, donc, je sais qu'il y a eu des drames entre différentes confessions, mais je crois qu'une mère, elle peut nous aider à oublier en regardant comme nous la croix de Jésus.
Donc on peut dire que Marie est universelle.
Marie universelle et Marie, elle est aussi centrale dans notre vie.
Ah.
Donc on peut pas vivre sans une mère. Et pour nous tous, donc on a besoin de Marie, qu'elle est un prototype, un modèle de foi. C'est elle est la première disciple, Marie. Donc pour nous, donc il faut vraiment voir la figure de Marie comme un exemple de vie pour tout chrétien. Et vous savez, quand on dit une mère, on dit tendresse, on dit paix. Ça touche chacun de nos cœurs. Et je crois que vraiment se confier vraiment à Marie, elle peut nous guider, elle peut vraiment nous, comme dans les noces de Cana, elle a dit, faisait ce qu'il vous commande ou ce qu'il vous dit. Donc, elle peut nous guider vers son fils Jésus-Christ.
Comment elle est représentée dans la Bible, Marie? À quel moment on fait référence à elle?
Donc, on peut dire qu'elle a, donc dans la Bible, il y a une présence centrale de Marie, parce que on la voit toujours près de son fils et surtout vraiment au moment clé du récit biblique. Et il faut bien préciser qu'on la voit toujours un peu discrète. Elle ne veut pas, elle, se montrer et se mettre de devant. Donc, on peut dire qu'à toutes les pages de la Bible, on peut voir la présence de la mère, de Marie. Et comme le croyant qui doit se tenir sans cesse près de Jésus. Donc c'est, on voit Marie donc dans toutes les à tous les moments clés. Donc et surtout que son nom n'est mentionné qu'à un certain moment très clé dans la Bible. Donc, c'était pas, vous savez, la Bible, c'était pas ni l'histoire de Jésus, ni l'histoire de Marie. C'est une bonne parole, une bonne nouvelle à transmettre. Et on voit Marie comment elle a participé à transmettre cette bonne nouvelle. Dans les différents moments cruciaux et importants de l'évangélisation.
Et justement, alors vous disiez, elle se met jamais en avant. À quel moment on entend parler de Marie dans la Bible?
Dans l'Annonciation, on la voit. On voit donc dans les noces de Cana, sur la croix. Donc c'est le moment le plus ultime. On la voit durant la Pentecôte. Donc, on voit Marie vraiment combien elle a joué un grand rôle. Elle a donné la parole, elle a porté la parole, elle a porté la parole, elle nous a transmis la parole, le Fils de Dieu. Le Dieu l'a mis au-dessous de tout humain. Elle est le Theotokos. Même elle n'est pas seulement la mère du Christ, du Fils. Elle est même la mère de Dieu. Donc c'est pour cela comment on peut comprendre comment Dieu, il a, même avec la faiblesse de l'humain et tout ce qu'il passe, donc il a élevé l'humain jusqu'à être la mère de Dieu. C'est pas seulement la mère du Fils. Theotokos. Et donc, on voit combien Dieu nous aime à tel point qu'il a donné son Fils jusqu'à la croix, et puis qu'il a donné une mère, et que cette mère, elle est devenue la mère de Dieu. Donc, un humain pour être un mère d'un Dieu, c'est pas rien. C'est quelque chose qui dépasse vraiment la pensée, qui dépasse même la raison. Et comme on a déjà dit, donc Marie, elle peut être vraiment un exemple de l'humain qui a vraiment se confié et a donné toute sa vie pour Dieu. Elle était une femme docile. Elle entendait la parole. Elle a connu la parole, Marie. Donc, on dit elle était dans le temple de Salomon. Donc, elle a entendu la parole. Elle a compris. Elle a médité la parole. Elle a médité la parole. Elle a essayé de comprendre le projet de Dieu dans sa vie. Et c'est un grand appel pour nous de demander, à l'image de Marie, de demander le projet de Dieu de chacun de nous.
On va faire une première pause musicale, on revient dans quelques instants. Tout de suite, on écoute Marche avec nous, Marie.
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui. Imprévu de Dieu, et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins. En chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de première en chemin pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout au plus près de la croix pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins. En chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de
Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Tanios Pteich, curé de la paroisse maronite de Toulouse, et ensemble on parle de cette date importante qui arrive demain dans le calendrier des chrétiens, le jour de l'Annonciation, et à cette occasion la paroisse maronite de Toulouse et d'autres communautés, notamment la paroisse étudiante, se réunissent pour une marche pèlerinage et un concert. On a parfois le sentiment que la Vierge Marie est plus vénérée que Jésus lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, en tant que prêtre, toujours, même dans le Liban, toujours, donc, quand il y a, donc, surtout dans les lieux de pèlerinage marial, donc on voit un grand afflux de gens. Et ici à Lourdes et à Fatima et dans les grands lieux de pèlerinage et marial, on voit ce grand afflux. Mais pour moi, je peux dire que quand on prie Marie et qu'on dit je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Donc, je ne peux pas, en tant que catholique, dissocier Marie et Jésus-Christ. Je sais que Jésus-Christ, il s'est donné sur la croix, c'est notre sauveur, mais on ne peut pas nier ou on peut le grand rôle de Marie qu'elle a joué dans dans ce projet d'évangélisation ou dans le projet de Dieu. Donc, aussi Marie, elle a porté la parole. Donc, vous savez, donc elle était juive. Elle a conçu le fils sans. Donc, vous savez, dans la région, dans le temps, au temps juif, donc vous pouvez pas, donc c'était un grand scandale d'avoir un enfant sans être marié. Donc, elle a subi des choses jusqu'à la croix. Donc, et toujours, je pense que Marie, elle peut dire, mais pourquoi moi? Pourquoi? Donc, c'est quoi cette vie? J'ai conçu un enfant du Saint-Esprit. J'ai passé toute ma vie à suivre le Christ d'une région à une autre. Et puis, à la fin, il est mort sur une croix. Et Saint Jean, il nous fait voir Marie debout sur la croix. Et si on va penser à ce, qu'est-ce que cette vie pour Marie? Mais le mari, elle a accepté le projet de Dieu. Et quand on accepte le projet de Dieu, elle savait dans son fond, dans son cœur et dans son esprit que il y a une chose plus grande que ce qui se passe durant que Jésus était avec elle. Donc, il y a une chose qui est plus grande et plus sainte et qui dépasse toutes les raisons et toute la raison humaine. Donc, elle a accepté. Car toujours, on demande, parfois, on demande des questions. Toujours, on est en quête de réponse, de vérité. On veut la vérité et tout ça. Mais si on voit l'exemple de Marie, elle a subi beaucoup de choses dans toute sa vie jusqu'à ce que son fils meure sur une croix. Ni elle n'a renié sa foi, ni elle a dit pourquoi Dieu tu as fait, pourquoi tu m'as choisi, pourquoi cette vie que tu me l'as donnée. Elle a été jusqu'au bout. Elle a accompagné son fils jusqu'à la croix, jusqu'au bout de sa mission. Et elle est en train d'accompagner maintenant l'Église aussi jusqu'au bout.
Marie, elle est morte comme tous les humains, mais ensuite c'est son âme et son corps qui ont été élevés au ciel.
Tout à fait, car toujours donc les gens ils disent que Marie elle est ressuscitée, mais non, c'est pas du
Non,
tout,
c'est pas ça.
c'est pas ça. Non, Marie elle est morte comme tout être humain, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est mort. Donc il a passé par la mort. Donc Marie elle a passé par la mort, mais son corps il est élevé vers le ciel. Et c'est notre foi catholique, c'est notre dogme aussi, qu'on a cette foi que Marie, que le corps et l'âme de Marie, ils sont élevés vers le ciel, car celle qui a porté la parole de Dieu, le corps qui a porté la parole de Dieu, il ne peut pas être détruit comme ça. Donc, et comme on a déjà dit, Dieu a aimé l'humain jusqu'à élever l'humain qui est représenté par Marie, donc, et être au plus haut niveau, au-dessus de toute chose.
On va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute Je vous salue Marie.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha.
Voici la servante du Seigneur.
Qu'il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha.
Et le Verbe s'est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Tanios Pteich, curé de la paroisse maronite de Toulouse, et ensemble on parle de cette date importante qui arrive demain dans le calendrier des chrétiens, le jour de l'Annonciation. Et à cette occasion, la paroisse maronite de Toulouse et d'autres communautés, notamment la paroisse étudiante, se réunissent pour une marche pèlerinage et un concert. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, je voulais faire un coup de projecteur sur la communauté maronite de Toulouse. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter aux auditeurs, parce que je ne suis pas sûr que tous les auditeurs vous connaissent et connaissent votre histoire.
Ok, je suis le père Tanios Pteich. Tanios, c'est Antonios, c'est Antoine, curé de la paroisse maronite de Toulouse. Donc, selon le vœu conjoint de l'éparchie maronite de France, et du diocèse de Toulouse. Ça fait 4 ans que je suis là, donc quelques mois, même un mois après mon ordination, à laquelle Mgr Robert Legard il a participé, il était au Liban, à Byblos. Donc j'étais ordonné, et je ne suis pas ici en mission, je suis ordonné pour les chrétiens maronites de la France.
Ah oui, de la France, carrément. Ce n'est pas uniquement de Toulouse, non, c'est toute la France.
De la France. Mais maintenant, ma mission est sur Toulouse. Et après un certain temps, vous savez, il y a toujours des mutations entre les différents paroisses et missions. Car ici, en France, on est à peu près 12 missions et 12 paroisses maronites. donc qui est étalé dans toute la région de la France. On a un évêque, un éparque. Donc, quand on parle d'une éparchie, c'est comme un diocèse, mm-hmm. mais une éparchie, elle est étalée sur toute la France, tandis qu'un diocèse sur un territoire mm-hmm. précis de la France. Donc, notre éparque, son siège est à Meudon, à Paris. Et je suis un prêtre incardiné, donc mm-hmm. je suis pas... Donc, il m'a ordonné au Liban, mais pour l'éparchie maronite de France. L'église, la mission maronite de Toulouse, elle ne rassemble pas seulement les maronites. Il y a une grande communauté orientale, comme les Syriens, et qui ne sont pas tout à fait tous des maronites. Mmh. Il y a aussi nos confrères irakiens, qui sont de rite assyrien ou chaldéen, donc catholique, orthodoxe. Toute la communauté, si on veut dire toute la paroisse orientale, elle se rassemble à Saint-François d'Assise, chaque dimanche, en hiver à 17h et en été à 18h. Mm. Et il y a toute une vie paroissiale. On a la chorale maronite, comme vous allez la voir au 25 mars, à la Dorade. On a aussi le catéchisme, on a aussi les jeunes. Surtout qu'il y a un grand afflux de jeunes suite à l'explosion de Beyrouth et suite à la crise économique qui passe le Liban.
Donc il y a beaucoup de Libanais qui viennent ici sur Toulouse.
Beaucoup de familles et surtout beaucoup de jeunes. Mm. On compte ici, donc sur ma paroisse, donc les chrétiens libanais, les jeunes, donc on compte à peu près 300 jeunes. Donc, qui viennent, qui en fait, ils ont fui leur pays pour venir ici continuer leur vie. Et c'était très difficile pour eux de quitter leur pays, d'être déracinés. Et au Liban, vous savez, on est très familial, on est très attaché à la famille. Et puis tout d'un coup, vraiment de se détacher du pays et de la famille et d'être, comment dire, jeté en sens figuré dans un monde qui est un peu plus vaste donc il y a donc au Liban il y a une grande ferveur ici que donc elle est moins en moins et au Liban donc comme vous le savez donc la foi elle est très manifestée même les signes religieux ils peuvent être portés normalement les prières tout ça les processions et ils viennent ici dans un monde qui est un peu qui est un peu très vaste et où aussi que entre guillemets que tout est permis et donc on peut pas je peux pas nier qu'ils ont eu vraiment ils font un choc culturel et ils font un peu un choc de foi. Je peux pas généraliser, il y a des Français ici qui sont très pieux et des vrais chrétiens. On peut pas généraliser. Mais vu la population ici qui est de différentes confessions et même il y a la présence beaucoup de l'athéisme là.
Oui.
Et vu aussi la séparation de l'État et de l'Église, ce qui n'est pas le cas au Liban, car non, on n'a pas de séparation de l'État et de l'Église. Et donc, c'est pas facile pour eux de vivre sur tous les côtés. Leur vie quotidienne et leur vie spirituelle.
Quelles sont vos missions à vous?
En plus d'être le curé de la paroisse maronite, j'ai poursuivi mes études en droit canonique à l'Institut catholique de Toulouse. Je suis en ma troisième année. Aussi je m'occupe des jeunes de la paroisse, je m'occupe des Irakiens, des Syriens, des Libanais de la paroisse. En plus j'étais nommé ça fait 2 ans l'aumônier des jeunes Libanais maronites de France. Donc c'est entre la paroisse et toutes ces activités, on a différents comités, la chorale, la comité aide intégration qui aide les jeunes qui viennent du Liban pour s'installer ici, à les aider à être intégrés ici. On a aussi le groupe, le comité des jeunes. Donc, qui s'occupe des différents groupes de jeunes, qui s'occupe aussi des différents, du côté spirituel, des activités, des retraites spirituelles. On a aussi le groupe La Confrérie des Dames. Ce sont des dames de la paroisse qui se sont rassemblées. Donc ils ont de côté le côté spirituel, ils prient le chapelet et tout ça. Ils ont le côté un peu de charité. Donc ils sont comme des mères, des mamans pour ces jeunes qui sont là. Et ils font beaucoup d'activités des activités. Ils font beaucoup de ventes dans différentes paroisses. Ils confectionnent des choses artisanales pour les vendre et pour les revenus, aider les jeunes qui passent vraiment un moment très difficile ici. Et donc, on a aussi les groupes du catéchisme. On a aussi le conseil paroissial. On a aussi un groupe biblique qui se réunit chaque vendredi soir. Donc, il y a toute une vie paroissiale. En plus, j'ai les études. Donc, ce qui aussi me prend un grand temps il m'occupe un grand temps. Et ça m'occupe beaucoup, un grand temps. Et puis, j'ai l'aumônerie des jeunes maronites de France. Des jeunes, l'année dernière, on a fait un rassemblement des jeunes maronites à Lourdes. Et cette année, c'est sûr, donc on va aller au GMJ. Ah. Donc, toutes les jeunes maronites de France, et pas que les maronites, on peut dire les Libanais. Donc, ils vont venir ici sur Toulouse et on va aller au GMJ. Donc notre pèlerinage va commencer d'ici de Toulouse, d'accord, vers Lisbonne.
Qu'est-ce qui fait la spécificité des Maronites? Parce que c'est une communauté qui n'est pas très connue ici en France.
Oui, les Maronites sont... Donc, ils se réclament d'un saint anachronite qui est Saint Maron. C'est la vie... Saint Maron, il était en Syrie. C'est un saint qui a vécu sans abri, dans le dénudement total. Pour se cacher, il avait seulement une tente, même dans la tempête, dans les différentes conditions naturelles. Et puis, ce sont les disciples de Saint Maron qui se sont rassemblés autour de Maron, ce saint-là, et ce sont eux qui sont venus pour évangéliser les païens qui étaient au Liban, car vous savez, l'Empire romain, elle était présente au Liban. Donc, il y avait jusqu'à maintenant, il y a Baalbek, les vestiges romains, à Fakra, à Anjar, donc il y a les vestiges romains. Donc, vous avez l'empereur, tout ça. Et puis, donc, ce sont les disciples de Saint Maron qui se sont installés tout au long du fleuve de l'Oronte, et qui ont joué un grand rôle de l'évangélisation. Et puis, ce sont eux qui se sont cachés dans les caves, dans les montagnes du Liban, dans la vallée sainte, la Kadisha, où ils ont joué un grand rôle pour défendre le Liban. Et ils ont même écrit la liturgie maronite. On dit qu'ils ont écrit par leur sang. C'était vraiment un peuple vraiment martyrisé. Et l'église maronite, c'est la seule église qu'elle est 100% catholique. Pourquoi? Elle était toujours ralliée avec Rome. Donc, il n'y a pas une branche maronite catholique, maronite orthodoxe. Donc tout au long de l'histoire du maronisme, les maronites, ils étaient toujours ralliés avec le Saint-Siège, avec le pape de Rome. Et cette église, elle est aussi un peu latinisée avec les croisades, avec la venue des missionnaires franciscains, des carmes, des jésuites. Il y a aussi on a gardé notre tradition ancienne. On a gardé, mais on est ouvert un peu au monde occidental. Notre langue liturgique, c'est le syriaque, c'est l'araméen, la langue de Jésus-Christ. Mais ici sur Toulouse, nous prions en arabe, en français, en araméen, en syriaque. Surtout que les paroles de consécration sont dites en syriaque, même durant la messe. Encore une spécificité de l'église maronite, c'est que les prêtres, ils peuvent être mariés, mais avant d'être ordonnés diacres. Donc c'est une spécificité, car vous savez que parmi les apôtres, il y avait Saint-Pierre qui était marié. Jésus-Christ, il a guéri sa belle-mère. Et donc on a pris cette tradition, mais à condition que l'ordination, elle soit avant le diaconat. Donc c'est ça. Aussi que les maronites, on donne le sacrement de baptême et de confirmation dès l'âge petit. Et ce que le prêtre, il donne les deux sacrements en même temps. Tandis que la communion, la première communion, elle est donnée comme ici en France, comme les chrétiens de rite latin. Donc, elle est donnée à l'âge de raison, de 8 ans, de 9 ans. Mm. Mais nous, on a gardé l'ancienne tradition de donner les deux sacrements. Mm. Avant, on donnait les trois sacrements, comme les orthodoxes. Donc, les orthodoxes, ils donnent les trois sacrements dès l'âge de bébé. Mais nous, comme je vous les ai dit, qu'on était latinisés, donc, on a gardé les deux premiers sacrements, mais la première communion, on la donne à l'âge de 8-9 ans.
Vous parliez des JMJ il y a quelques instants. Quels sont les autres gros événements ou grands événements que vous organisez avec la communauté maronite?
Donc généralement, sur toute l'année, on a beaucoup de concerts. Mmh. Donc des concerts, on a fait un grand concert durant Noël. Mmh. Aussi on a fêté Saint-Maron à la Dorade, à la basilique de la Dorade, avec la paroisse étudiante. Et donc on a prié en rite maronite, mais en langue française, et c'était bien pour que ici les catholiques ici ils connaissent qu'il y a des chrétiens d'Orient et des chrétiens de différents rites. Donc c'était une occasion de montrer que l'Église, elle est universelle. Et l'Église, elle contient différentes personnes. Mais il y a le Christ qui nous unit tous. Et puis, donc, on a maintenant le 25 mars, qu'on va faire ce pèlerinage, cette marche pèlerinage, ce chapelet vivant, avec le concert. Puis, on a le 26 mars, on a, donc le lendemain, on a la visite pastorale de Monseigneur Guy de Kerimel, l'archevêque de Toulouse, qu'on le remercie de tout notre cœur, qui a accepté, après Monseigneur Le Gall, d'accueillir la mission maronite de Toulouse. Et aussi, on remercie aussi le père Jean-François Galinier, le curé de la paroisse de Saint-François d'Assise, avec tous les paroissiens qui nous ont accueillis vraiment avec un grand cœur. Et donc, c'est la visite pastorale de Monseigneur Guy de Kerimel et de l'administrateur apostolique de l'éparchie maronite, Monseigneur Peter Karam. Donc on va le 26 à 18h, on va avoir la visite pastorale, puis une grande messe, puis un buffet dînatoire dans les salles de l'église de Saint-François d'Assise. Puis donc on a surtout Pâques, les rameaux, car les rameaux, c'est un peu très spécifique dans les rites maronites. Donc on a une grande procession, on fait comme Jésus, comme la procession qu'il a fait Jésus. Donc on marche avec les enfants en dehors de l'église, avec les bougies, avec les palmes. Et puis aussi donc le rite de jeudi saint et de vendredi saint, du samedi, du dimanche, de Pâques. Ils sont un peu de rites très spécifiques pour l'Église orientale. Et vous savez, on est très... Donc, ce n'est pas par hasard que Jésus il est venu dans l'Orient. On est... Donc, vraiment, on est un peuple qui est très sentimental et qui est très qui pense beaucoup au don de soi, au sacrifice. Et c'est très présent dans notre liturgie. On sent un peu la peine, on sent donc et vu que ces prières, ils étaient écrits après vraiment des périodes fortes qu'ont passé les maronites et les chrétiens d'Orient, après grande persécution, après grande après grande difficulté. Donc, on sent combien ce peuple il a subi, mais il avait gardé toute sa foi. Même Jésus, il a plié sa tête sur la croix, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est tout notre espoir et toute confiance qu'après tout ce malheur, après le croix, il y a vraiment une résurrection.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Père Tanios Pteij, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous aussi, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Je rappelle donc cet événement, cette marche et ce pèlerinage à 18h demain, départ de la cathédrale Saint-Étienne, suivi d'un concert à 20h. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.